Sommes de retour. Désolé pour l'inconvénient, mais on est en train de s'amuser avec les gens par messagerie texto. Vous êtes vraiment fin, vous êtes vraiment gentil, vous trouvez ça drôle. Vous avez toutes sortes de très bonnes blagues. Vous êtes parfaits. Vraiment, vous êtes des auditeurs parfaits. Je vous remercie beaucoup. Ceci étant dit, il faut passer à un sujet très sérieux. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'Alzheimer. Et... je vous ai expliqué que j'étais très touché par ça parce que qui souhaite un jour être à la maison ou dans un centre spécialisé ou dans un CHSLD ou un genre de... Puis compléter sa vie sans trop savoir ce qui nous arrive dans notre entourage, sans trop relier ou comprendre notre environnement. Je pense qu'on y pense tous, mais on ne veut pas vivre ça. Est-ce que la COVID-19 a un lien avec la maladie d'Alzheimer? C'est la question que plein de personnes peuvent se poser. Docteur Éric Simard est avec nous. Bonjour, docteur, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Merci d'être là. Vous avez écrit un livre sur le sujet, puis je comprends bien. Vous avez fait des recherches là-dessus. Est-ce qu'il y a un lien entre la COVID-19 et le cerveau?
Oui, bien écoutez, en fait, mon domaine à moi est de garder les gens en santé plus longtemps. Donc, tout ce qui a trait à la santé relié à la longévité. Donc, la prévention de la démence et de l'Alzheimer en est une facette très importante. Et ce qu'il faut bien sûr comprendre dans le cas de la démence et de l'Alzheimer, c'est que le premier facteur de risque le plus important, là, c'est la pression artérielle, c'est les risques de bris des petits vaisseaux sanguins. Et le problème qu'on a avec la COVID-19, c'est que c'est un virus qui va affecter avant tout les vaisseaux sanguins parce qu'il va s'introduire à l'intérieur des organes, à l'intérieur du corps humain, via le récepteur de la pression artérielle, là, qu'on appelle l'ACE2, le récepteur de l'angiotensine 2. Et donc, oui, il y a des études qui ont clairement démontré dernièrement, on avait déjà des indices là en avril, en fait, qu'il y aurait probablement des atteintes neurologiques chez certaines personnes. Mais là, il y a eu des suivis de fait de près, en fait, en Angleterre, entre autres, sur des patients hospitalisés. Fait qu'il faut comprendre que là, on parle pas nécessairement des gens qui sont asymptomatiques ou encore qui ont des symptômes légers. Mais chez les gens fortement atteints, le cerveau va être atteint parce que le cerveau, c'est un organe mou qui est très affecté, en fait, par l'inflammation. Et ce qu'on sait justement, c'est qu'il va y avoir des atteintes neurologiques chez les cas graves de COVID-19, chez beaucoup de cas, en fait, et ça pourrait éventuellement, bien sûr, augmenter les risques de démence et d'Alzheimer.
Alors, je comprends bien, puis ça, c'est vous avez tellement raison. Au début, on pensait que c'était juste les poumons, mais là, finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus large que ça. Oui, il y a certainement les poumons puis le cœur d'une certaine portion, mais vous dites, vous, que ça peut aller atteindre, ça peut aller jouer dans le cerveau, et qu'une personne... une personne qui n'a pas de symptômes de l'Alzheimer ou de démence, avec le temps, ayant contracté la COVID-19, on n'écarte plus la possibilité que ça puisse se développer davantage? C'est tout ça que vous nous dites ce matin?
Oui, effectivement. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre dans les problèmes de démence et d'Alzheimer, c'est qu'il y a de multiples sources, dont les problèmes neurologiques qui peuvent être causés, même par un traumatisme crânien plutôt dans notre vie ou encore des petits AVC. Le cerveau est très délicat au niveau de sa circulation sanguine. À la minute où on a des bris, des dommages qui sont causés, c'est toujours possible qu'on ait des régions du cerveau qui finissent par se dégrader, causer de la dégénérescence nerveuse. Et des maladies comme la COVID actuellement pourraient effectivement augmenter les risques d'Alzheimer ou de démence. Ça va de soi, au même titre, en fait, que la pression artérielle. Quand je vous disais tout à l'heure que la première cause, c'est les problèmes sanguins, là, 35% des cas d'Alzheimer seraient causés justement par... seraient reliés, en fait, à des problèmes de pression artérielle parce que les vaisseaux sanguins au niveau du cerveau vont éclater. Les petits vaisseaux vont éclater et ça va amorcer le processus. Donc, dans le cas de la COVID, c'est un peu le même principe, là. C'est que l'inflammation qui va être créée au niveau du cerveau, les petits AVC, l'étude en Angleterre, vous donnez quelques chiffres intéressants, là. Il y a eu deux études récentes qui ont porté attention au cas d'atteinte neurologique. Et il y en a une qui présentait 43 cas hospitalisés. On en a 10 qui avaient des dysfonctionnements cérébraux, 12 cas d'inflammation cérébrale, 8 AVC et 8 lésions nerveuses. c'est des gens qui risquent plus tard justement de développer de la démence ou de l'Alzheimer. Mmh.
Mmh. C'est inquiétant, c'est très inquiétant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, c'est ça que ce matin, j'ai tellement de pensées pour les gens qui sont frappés par ça. Puis c'est pas juste les victimes, c'est tout l'entourage, les familles. C'est pas une maladie qui est facile à vivre avec. Et puis je me dis là, on isole des gens qui sont dans des centres, qui sont atteints d'Alzheimer. Et à mon avis, ça doit pas être évident pour eux, étant isolés, puis avoir moins de visites, pas voir de monde, pas socialiser, moins marcher, être moins... Je sais pas, là, j'ose croire, docteur, corrigez-moi si j'ai tort. C'est pas un contexte qui est favorable pour une personne qui est atteinte, puis qui est dans un centre, puis qui est frappée par cette maladie-là.
Non, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, on devrait avant tout avoir une pensée, en fait, pour ces gens-là, puis une pensée pour tous les proches aidants qui essayent de les accompagner là-dedans, parce que faut comprendre que les gens atteints de démence ou d'Alzheimer, là, ils sont à la minute où on va changer leur quotidien, on va changer leur routine, ils vont se sentir un peu perdus. C'est que là, en plus d'essayer de leur mettre en place des consignes sanitaires, puis essayer de faire en sorte qu'ils s'en rappellent, ça c'est l'autre affaire. Dans bien des cas, il y en a qui ont été complètement retirés, que la parenté pouvait plus aller les voir, que c'est leur seul contact pratiquement avec la réalité. Ces gens-là, quand ils voient plus leurs proches, des fois, ils savent même plus trop quelle journée qu'on est, quelle semaine, qu'est-ce qu'ils devraient faire. Ah non, c'est dramatique, honnêtement. Et d'augmenter le stress, l'anxiété chez ces gens-là, c'est souvent pathologique, là. Ça cause vraiment d'autres types de problèmes, en fait, là. Ça peut les amener à de la dépression, ça peut les amener à développer d'autres problèmes psychologiques.
Mais la question, le stress et l'anxiété liés au fait qu'ils ne voient plus de gens ou qu'ils sont dans un milieu différent puis qu'on change leurs habitudes, mais la question que je dois vous poser, ils s'en rendent-tu compte, eux autres, qu'on est stressé puis que ça va bien mal autour de nous autres dans le monde, la COVID-19? Tu sais, je me pose la question si ces gens-là vraiment voient la différence là, au quotidien.
Ben, ça dépend des niveaux d'atteinte puis ça dépend, en fait, à quel point ils sont dans une routine. Moi, mon père a souffert de démence parce qu'il avait fait un AVC, en fait, à l'époque. Puis, je peux vous dire que la majorité du temps, il s'en rendait pas vraiment compte. Il était pas tout à fait dans la même réalité que nous autres. Sauf qu'à la minute qu'on essayait de le bouleverser, de changer ses routines, de changer sa vie quotidienne, il stressait, il shakait, on le voyait, c'était évident. Mmh. Fait que oui, il y en a qui vont trouver ça difficile, c'est clair. Il faut essayer justement de garder contact. Puis je vous dirais que c'est sûr que ceux qui peuvent pas aller les voir fréquemment, ils peuvent toujours aussi téléphoner, en fait, et ils peuvent essayer de leur amener des livres, leur amener des revues. Il y a moyen d'essayer aussi de s'adapter, je dirais, même sur la question des consignes. Là, la Société d'Alzheimer a donné beaucoup de recommandations sur comment faire mettre les consignes en place dans la situation actuelle avec les gens qui ont des problèmes de démence. Il y a beaucoup de ressources, en fait, pour essayer de donner des conseils. Ça vaut la peine, entre autres aussi, l'Association des proches aidants. Donc, ça vaut la peine, en fait, de vérifier toute l'information qu'on peut trouver.
Docteur Simard, est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pointe à l'horizon pour améliorer les conditions de personnes qui sont atteintes d'Alzheimer? Aujourd'hui, c'est la journée internationale. À travers le monde, on vient à bout de faire avancer la recherche un peu?
Bien, pour être bien fin avec vous, c'est très, très, très difficile. Ça fait une trentaine d'années... Sur les 30 dernières années, on a au moins 10 fois pensé qu'on avait découvert un médicament qui révolutionnerait le domaine de l'Alzheimer. Ça n'a jamais été le cas. C'est quelque chose de très complexe. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attention qui est portée à détecter la maladie beaucoup plus tôt parce qu'on a trouvé des moyens de ralentir la progression. Puis le ralentissement de la progression a un impact plus important, plus c'est découvert tôt. Donc, il y a espoir que puis on sait que dans le cas de l'Alzheimer, chez certaines personnes, on va se rendre compte des conséquences à peu près 20 ans après que les dommages aient commencé à prendre place. Fait que si on était capable là de le détecter, disons 5 ans après, mettons que ce serait pas 20 ans, là, mais 15 ans avant que les symptômes les plus importants apparaissent, puis de ralentir la maladie, ben on a peut-être des chances justement de réussir à accompagner ces gens-là pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes de conséquences causées par la maladie à aller jusqu'au moment de leur mort. Puis on serait peut-être capable de le ralentir assez longtemps. Mais la science avance quand même. Là, il y a quand même aussi il y a beaucoup de choses qui se pointent à l'horizon. Il y a même une possibilité d'un vaccin pour essayer d'amener le système immunitaire à nous aider en fait à débarrasser le cerveau de l'encombrement des protéines. Écoutez, faut toujours avoir espoir. La science continue toujours d'avancer.
Moi, là, j'ai 50 ans. J'oublie des petites affaires à gauche pas à droite. J'ai eu quelques commotions cérébrales dans ma vie. Je prends moi comme exemple, puis je sais qu'il y a bien des gens qui sont à l'écoute qui se reconnaissent. Comment je fais pour savoir si j'ai pas un début d'Alzheimer pour le prendre au début, comme vous venez de me dire, là, avant qu'il soit trop tard?
Ben, c'est pratiquement impossible, honnêtement. En fait, malheureusement, c'est ça le problème. Actuellement, les tests qui sont en cours, là, c'est d'essayer de détecter la présence des protéines qui sont problématiques au niveau du cerveau, les détectant en circulation sanguine très tôt, en fait, à travers la maladie. Parce que pour les gens vieillissants, c'est une chose qu'il faut savoir qui est intéressant aussi, là, c'est que parce qu'il y a beaucoup. Vous savez, l'Alzheimer, là, ça serait la problématique numéro un en importance pour les gens vieillissants qui arriveraient même avant le cancer et les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup la population. Il faut pas s'en faire quand on a des troubles de mémoire momentanés. Là. Ça arrive, c'est normal. Il faut s'en faire quand on commence à oublier à quoi sert quelque chose. Ou ce que là, c'est des processus de réflexion plus complexes qui rentrent en ligne de compte. Autre, par exemple, là, le fait de perdre ses clés, c'est une chose. Le fait de plus savoir à quoi servent vos clés, ça, c'est une autre affaire. Donc, c'est un très bon exemple, mais je vous dirais que si vous voulez de l'espoir, une chose intéressante, là, c'est que les dernières années nous ont montré que l'Alzheimer est une des facettes associées au vieillissement qui est influencée par l'ensemble, toutes les saines habitudes de vie au complet, et l'impact peut être phénoménal. Que, comme je vous mentionnais, mon domaine à moi est de garder les gens en santé et non pas de traiter des maladies. Dans le cas de l'Alzheimer, on sait déjà que l'activité physique réduit de 50% les risques, l'alimentation les réduit de 55%. Et ça a des facettes additives. Et donc, la vie sociale s'additionne à ça, la saine gestion du stress et de l'anxiété aussi. Donc, même les gens qui sont porteurs de facteurs génétiques qui augmentent les risques, avec des habitudes de vie parfaitement saines, là, puis là, les scientifiques ne s'entendent pas là-dessus, là, mais il y en a qui disent que les risques reviennent complètement à la normale, puis il y en a qui disent qu'ils baissent de 30%. Ceci dit, c'est juste de comprendre, en fait, que l'Alzheimer, les maladies dégénératives, c'est pas une fatalité. Au contraire, en fait, on a des gens âgés, très âgés, même des centenaires, qui ont encore toute leur capacité cognitive, en fait, là, rendue à 90 ans passés.
Oui, oui.
Oui, c'est vraiment une question de prévention à ce moment-là. Il faut, c'est une question d'avoir des saines habitudes de vie. Puis ici, le lien avec la COVID, faut comprendre aussi que le cerveau est un organe qui, un peu comme les poumons, tolère mal l'inflammation. L'inflammation a un gros rôle à jouer dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Puis on sait aussi que, encore là, l'alimentation, la mauvaise alimentation est très néfaste, en fait, pour les processus inflammatoires, de la même façon que le poids corporel. Hein, le surpoids, en fait, un des gros problèmes actuellement avec la COVID, le développement, en fait, des formes graves de la maladie, c'est un débalancement de la production de cytokines pro-inflammatoires, là, qui va ce qu'on a appelé, en fait, la cascade de cytokines. Ces cas-là seraient reliés justement à des gens qui ont de la difficulté à gérer leur inflammation. Ça fait que c'est souvent des gens en surpoids, c'est souvent des gens qui mangeaient mal, qui ont des mauvaises habitudes de vie.
Merci. Merci beaucoup des informations. S'il y a des gens qui veulent en lire ou en apprendre davantage, proposez-nous des lectures, là, vos livres. Je sais que vous avez participé à plusieurs écrits pour améliorer la santé des gens, docteur. Qu'est-ce que vous suggérez aux gens qui viennent d'entendre cet entretien qu'on a eu ensemble?
Oui, bien, c'est bien gentil. Écoutez, j'ai écrit 4 livres sur le vieillissement en santé avec 11 autres professionnels de la santé, dont 4 pharmaciens et un médecin. Le quatrième est sorti durant la pandémie. Il s'appelle Vivre Jeune 4. Vous pouvez trouver les livres facilement sur le site internet vitoli.ca, V-I-T-O-L-I.ca. Et de la même façon, vous pouvez trouver aussi sur le site internet de Vitoli un blog auquel collaborent 15 professionnels de la santé. Vous allez trouver beaucoup de choses sur les saines habitudes de vie, la prévention, la santé cognitive. Puis particulièrement dans mon quatrième livre, justement, parce que ça m'avait été demandé, là, entre autres pour des conférences, dans Vivre Jeune 4, ne soyez pas esclave de votre génétique. Vous avez un chapitre complet sur la prévention de la démence et de l'Alzheimer.
Ben, c'est pris en note. Vivre jeune 4, un chapitre sur la prévention, mais ne soyez pas esclave de votre génétique. J'ai ça sous les yeux. Docteur Simard, un réel plaisir de vous avoir parlé ce matin. Merci beaucoup de l'information. On garde contact.
Oui, merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée.
Docteur Éric Simard, il est docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement, auteur de 4 livres sortis, dont un quatrième qui est sorti cet été, avec la collaboration d'autres spécialistes de la santé, pour vous informer de tout ce qui tourne autour du monde de l'Alzheimer. Mais vous avez entendu, là, c'est pas encore tout à fait tout prouvé, là. Mais l'Alzheimer, la COVID-19 aura un effet sur l'Alzheimer, puis dans 20 ans, on va être capable de mesurer tout ça. L'inflammation du cerveau. Hein, la COVID, c'est ça que ça fait. Ça crée une inflammation des poumons, du cœur. Partout où est-ce qu'on entend parler, ben, c'est la même chose pour le cerveau, qui est un milieu mou. Et c'est ce que nous disait Dr Simard. Il y a une inflammation, il y a une pression qui est exercée, et c'est là qu'on peut développer des symptômes d'Alzheimer ou encore de démence. Très bon entretien. Vous pouvez d'ailleurs réentendre cet entretien-là sur notre site web plus tard aujourd'hui. 8h41, on va s'arrêter là-dessus. Dans quelques instants, on a les arts et spectacles, Richard, avec Tania. La chaloupe s'en vient, restez là.